9h15.
9h15, ça serait bien.
Ouais. Tout dépendra de
la décision. S'il n'y a pas trop de questions, c'est bon, ça nous arrange.
Des obligations derrière.
Ouais.
Allez, on va faire l'appel. Alors, monsieur Capot.
Présent.
Madame Georgetti.
Présente.
Monsieur Jam.
Présent.
Madame Cabas, représentée. Monsieur Chrétien.
Présent.
Madame Rouquayrol, représentée. Monsieur Depont.
Présent.
Monsieur Barrascude.
Présent.
Monsieur Boyer.
Présent.
Monsieur Crespi, représenté. Madame Gombert.
Présent.
Monsieur Guédan, représenté. Madame Lagriffole, représentée. Monsieur Masson.
Absent.
Absent. Absent. Monsieur Paturel.
Présent.
Monsieur Raymond.
Présent.
Madame Rivingari.
Normalement, elle m'a dit représentée, alors...
Bon, je vais la mettre absente.
Ouais.
Madame Rochette.
Présent.
Madame Thomas.
Présent.
Madame Pourrier.
Absent.
Monsieur Borrelli.
Présent.
Madame Gelsomino, représentée. Monsieur Prosperi.
Présent.
Monsieur Bord.
Présent.
Et Madame Gaulin, représentée. Donc le quorum est atteint, puisque nous sommes largement plus de 13, donc nous allons pouvoir délibérer. Alors, pour commencer, on va élire un secrétaire de séance. Alors, la logique était que ce soir, ce soit Myriam. Donc, ça sera Jean-Marie. Qui, tu vois, tu n'es pas rentré pour rien.
Si on l'avait dit, je serais pas.
Quelle chance.
Voilà, exactement. Donc voilà, monsieur Jean-Marie Prosperi est élu secrétaire de séance. Nous allons voter. Avant, non, il n'est pas élu. Qui est contre? Qui s'abstient? Évidemment, donc il est élu à l'unanimité. Ensuite, nous allons parler du PV du conseil municipal de la dernière fois. Donc, avez-vous des remarques?
Oui, madame le maire, deux petites remarques. Dans l'audio partie 1, le début de la séance n'est pas enregistré, donc encore problème, oui. Et deuxième remarque, dans le PV du Conseil municipal du 13 avril, nos questions orales ont été étrangement reformulées. Or, dans le règlement intérieur, article 5, questions orales, il est précisé, dans le compte rendu du Conseil municipal, le texte intégral des questions ainsi que la réponse y seront retranscrits. Je vais donc corriger et indiquer préalablement qu'il s'agit de trois questions posées par mon frère ensemble, et non seulement par Céline Gaulin et Jean-Paul Bon. Voilà. On vous envoie les questions, donc vous devez avoir les questions dans leur intégralité. Merci.
Ah, elles n'ont pas été remises, c'est ça? Oui, oui.
Elles n'ont pas
été retranscrites. Oui, oui.
Comme je vous les ai envoyées.
Oui, oui, tout à fait.
C'est assez simple.
C'est une erreur.
Oui. Merci.
Par contre, pour ce qui est des réponses, je t'avais demandé de m'envoyer les réponses. Hein. Donc, du coup, j'ai repris les réponses que tu m'as faites, mais j'ai raccourci. Volontairement en assumant le fait que j'enlevais ce qui me paraissait polémique en laissant ce qui était de l'ordre des faits. Voilà, c'est tout.
De toute façon, on peut faire un compte-rendu succinct des réponses.
Oui,
hein. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est que là, c'est vrai que Émilie a omis de mettre la question dans son intégralité et la réponse après apportée avec...
Oui, je n'ai pas fait gaffe, ça parle.
C'est des questions. C'est tout.
Donc, nous allons voter l'approbation du dernier conseil, du PV du dernier conseil municipal. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Ensuite, nous allons valider l'ordre du jour avec premier point information, deuxième point décision du maire, troisième point liste des délibérations, quatrième point questions diverses. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. L'ordre du jour du conseil d'aujourd'hui est adopté à l'unanimité. Donc, dans les informations, je voulais vous en donner quelques-unes. Donc, la première, c'est la démission de madame Marilyn Serre. Donc, Madame Serre a démissionné pour des raisons professionnelles et personnelles. Comme la loi l'exige, j'ai contacté les deux élus qui étaient sur notre liste pour remplacer Madame Serre. Les deux élus, M. Arnaviel et Mme Dadur, ont refusé et l'un et l'autre. Donc nous finirons le mandat à 26 élus et non pas 27, mais il est tout à fait possible de terminer à 26 élus. Pont sur le Lez. Je voulais juste vous tenir au courant de ce qui s'est passé sur le pont sur le Lez deux week-ends de suite. Vous savez que le pont sur le Lez a été rouvert avec un alternat qui a été mis en place pour permettre le passage des vélos et des piétons sur le pont. Cet alternat, deux week-ends de suite, a été vandalisé. Donc nous avons fait à chaque fois, M. Jam a fait intervenir la métropole sur le week-end, puisqu'il y a des astreintes à la métropole, et ils ont réparé les feux. Aujourd'hui, ces feux sont sécurisés, il y a des cadenas, de telle sorte que normalement il ne devrait plus rien se passer sur cet alternat. Preuve en est, c'est que le week-end dernier tout a bien fonctionné, j'y suis passée samedi plusieurs fois, dimanche tout allait bien, et depuis lundi ils ont mis du stabilisé sur la piste cyclable qui va du petit rond-point de Caudalie jusqu'au pont, alors que jusque là il n'y avait que du gravier et que les vélos c'était pas évident pour eux. Là ils ont mis du stabilisé, c'est quand même beaucoup plus facile. Les vélos passent le pont et ensuite prennent la piste cyclable pour ressortir au chemin de la Meule et se remettre avec la circulation jusqu'au chemin du Fescou. Alors, on est... Oui.
Mais non, j'ai vandalisé, je ne sais pas ce que tu veux dire par vandalisé. Moi, une fois, je suis passé et en fait, les feux, j'ai pas compris sur le coup, les feux avaient été retournés du côté des
vignes.
D'ailleurs, c'était Bruno qui était en train de le remettre du point de vue de l'autre côté.
Moi, si tu veux, j'appelle Alain Jeanne. Et j'ai dit, Alain, c'est normal que ça ne marche pas. Il me dit, non, pas du tout. Alors, j'ai dit, c'est quelqu'un qui a barré, qui a fait des jeunes et qui a fait les couilles. J'ai tourné en place.
Et oui,
j'ai vu le feu de côté Prades marcher. Et en partant, je me suis arrêté là-bas sur la piste cyclable et j'ai regardé le feu côté Montferrier. Et celui-là, il clignotait. Alors, il y en a un qui marchait, mais l'autre, il clignotait. Donc, il y a des problèmes. Voilà.
Il y a des feux qui ont été débranchés. Un des deux week-ends, il y a des feux qui ont été débranchés. D'accord. Non pas couchés, comme tu l'as vu une fois, mais débranchés complètement. Donc là, ils ont mis des cadenas. Hein,
oui, ils ont mis des cadenas. Et les batteries ont été débranchées. Ouais, ça arrive. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que sur ces feux, il y a des cadenas. Là, il n'y en avait pas.
Heureusement aussi qu'ils ont mis le stabilisé. Hein, parce que moi, j'ai
fait une en vélo, ce n'était pas possible. Non, ce n'était pas possible.
Je suis allé me planter dedans.
Donc voilà sur le pont sur le Lez, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. On va attendre la rentrée de septembre, parce que là c'est vrai qu'il y a quand même moins de circulation. À la rentrée de septembre, on va voir comment ça va fonctionner.
Il y a des écoles qui fonctionnent. Donc...
Oui, mais il y a beaucoup moins, là on voit bien, nous ici on a beaucoup moins d'élèves, donc il y a moins de circulation. En revanche, je pense qu'en septembre, quand ça se remettra vraiment bien, on aura un bouchon, comme l'a remarqué Amélie, un bouchon qui remontera sur la route de Prades au rond-point de Caudalie, parce que les gens vont vouloir tourner à gauche pour aller sur le pont. Et donc là, comme il y a des gens qui attendront pour l'alternat, ça va bloquer. Donc on en a parlé avec la métropole et on fera une séparation de voies. On obligera les gens à aller tourner chez Besnard pour prendre la file pour s'engager sur le pont. Et non pas tourner directement à gauche et bloquer tout le système.
C'est un entraînement. Ah oui, d'accord.
Voilà.
C'est ça.
Donc, pour l'instant, ça fonctionne. On verra en septembre. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin, hein, mais je doute. Je pense qu'à 5 heures, ça va être un peu long. Voilà. Après, le temps, on ne sait pas. On est peut-être parti pour 18 mois. Hein. On est peut-être parti pour 18 mois. Hein. Donc, bon. Voilà, moi j'ai écrit deux courriers au sous-préfet et au préfet. J'attends une réponse. La métropole a aussi écrit à la préfecture, parce qu'aujourd'hui c'est entre les mains de la préfecture. Mais j'attends. Si je n'ai pas de réponse en début de semaine, je pense que j'appellerai directement le préfet pour savoir un petit peu quelle décision il va prendre sur ce pont. Hein. Parce qu'à un moment donné, où il prend la bonne décision et on raccourcit le temps de fermeture du pont, enfin d'alternat sur le pont, ou il prend la procédure normale, et la procédure normale, c'est au maximum 18 mois. Ouais. Donc ça, j'espère que je le saurai très, très rapidement. Voilà. Après, l'école au Devezou, ben voilà, comme vous pouvez le voir, l'école se fait au Devezou, donc depuis le 26 juin. Ça se passe bien, on va le dire. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Les enseignants sont plutôt contents. Les enfants sont ravis. C'est une autre forme d'école. La semaine dernière, ils ont fait beaucoup de...
d'activités
sportives. De jeux olympiques, là, de, oui, d'olympiades. D'olympiades, trois matinées des olympiades. Donc, les enfants étaient très occupés. L'après-midi, ils ont fait du travail. On leur a mis des tableaux. Donc, voilà, vous pouvez voir sur les tableaux, ça a travaillé la semaine dernière. Et cette semaine, je pense que ça va être un petit peu plus cool. Ils vont commencer à faire des goûters, à faire tout ça, je pense.
Je crois que le...
Ils sont beaucoup moins nombreux cette semaine.
L'après-midi, oui, il y a 40% d'effectifs en moins à l'école. Et l'après-midi va être dédié majoritairement cinéma. Du cinéma. Ils profitent de l'écran, du grand écran.
Et comme voilà. C'est climatisé.
Oui, en plus.
Donc s'il fait très chaud dehors, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, la cantine, ça se passe très bien avec les repas froids. Il n'y a aucun problème. Non, finalement, la sortie, l'entrée d'école se passe très bien aussi. Le personnel assure ça parfaitement. Les parents ont bien compris qu'il fallait venir devant la cuisine. C'est sécurisé. Ils sont responsables de leurs enfants une fois qu'ils ont passé le portail. Ça se passe vraiment très bien. Et heureusement qu'on avait cette salle du Devezou. Et ce qui nous a permis de commencer 15 jours plus tôt sur les travaux à l'école élémentaire. Et heureusement, parce que... Je vais passer au point suivant. Tu vas parler des travaux.
Tu m'as enlevé une partie de ce que je voulais dire de la bouche. Mais effectivement, heureusement, on a pu encore le constater cet après-midi, puisque nous avions une réunion de chantier. Et on se rend compte que, une semaine et demie, ils ont fait des travaux considérables. Ils ont pu faire ils ont démonté pratiquement toutes les menuiseries. Enfin, on avance très bien. On ne pouvait pas se passer. De ces 15 jours. On a l'expérience de la phase 1, puisqu'en phase 1, on a travaillé sur 4 classes. Là, on en a 5, plus les bureaux administratifs de la directrice et des profs, plus la salle polyvalente. Donc, il fallait passer par ces 15 jours. Donc, ça se passe bien. Les entreprises connaissent bien ce qu'elles ont à faire, puisque ça fait quand même un an maintenant qu'elle travaille sur ce chantier. Il y a une bonne coordination. Je pense que si rien ne nous arrive de catastrophique, même l'imprévu, on arrivera à le gérer. Enfin là, je m'avance peut-être un peu. Là, on doit déménager le 28 août. Donc il faut que le 17, c'est ça,
c'est hein, ça.
Le 17, on puisse réceptionner les travaux. C'est pas saisi si vous avez l'occasion. Vous verrez que c'est assez important. Donc voilà, ça se passe bien. Voilà. Et encore une fois, on a bien fait de prendre la responsabilité vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis de l'académie, de venir cette salle ici pendant 15 jours. Voilà.
Et c'est vrai que la phase 1, ça leur a vraiment bien permis de connaître tous les travaux. Exactement les travaux qu'il fallait faire, ce qui fait que là, cet après-midi, il y avait 3 entreprises qui tournaient et voilà, ça va bien plus vite qu'à la phase 1 où ils sont arrivés sur de l'inconnu, ils ont découvert au fur et à mesure des choses qui n'allaient pas, etc. Donc là ça roule.
Et oui, il faut quand même se rendre compte que dans le bâtiment, principe au mois d'août, on ne travaille pas. On travaille avec des entreprises qui vont maintenir leurs équipes au mois d'août.
Et qui vont même venir travailler le samedi pour certaines.
Et qui vont même travailler le samedi. Alors évidemment, ça demande de la surveillance, du travail, il faut être présent, mais bon.
Voilà. Dans l'ensemble, les travaux sont positifs pour l'instant, espérant qu'il ne se passe rien dans l'été. Autre question, l'embauche de l'ASVP. Donc comme vous avez pu le voir, nous avons un petit jeune, Adrien Dupont, qui travaille avec Colia, donc c'est notre nouvelle ASVP. On lui a fourni un vélo électrique pour qu'il puisse tourner dans la commune. Les échos que j'en ai sont excellents. Les parents sont ravis de l'avoir aux sorties, aux entrées d'école, surtout le matin à la maternelle, puisque Colia fait l'élémentaire. Donc les parents en sont ravis. J'ai fait les 2 fêtes d'école et vraiment, je n'ai eu que des bons retours sur Adrien. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien, il est content. Alors après, on va peaufiner, je pense, sa fiche de poste pour essayer de lui donner un petit peu plus d'envergure. sachant que à partir du mois de septembre, on repart sur un recrutement de policiers municipaux, hein, parce qu'on ne peut pas continuer avec un seul policier municipal, c'est impossible. Donc à partir de septembre, on relance la procédure. Et j'espère que cette fois-ci, on pourra recruter plus facilement que sur la première période. C'était un peu compliqué. Voilà. Donc, bien pour la SVP. La collecte des déchets. Que dire de plus sur la collecte des déchets? La collecte des déchets a mis le feu dans le village. Tout le monde s'est agacé. Et d'ailleurs, ce soir, je voulais absolument remercier le personnel de la mairie à l'accueil et au secrétariat, ainsi que le bûcher unique de la métropole, parce qu'elles ont subi les assauts de la population, qui les ont vraiment maltraitées. Elles ont eu toutes les réponses, elles connaissaient les réponses, elles ont rencontré les personnes de la métropole responsables de cette collecte, qui sont passées plusieurs fois les voir, matin, soir, après-midi, pour connaître véritablement toutes les problématiques, leur donner des réponses. Donc voilà, il a fallu en gros 3 semaines pour que la nouvelle société, Urbaser, donc, se mette au parfum, sachant qu'encore aujourd'hui, il y a des ratés, hein. Il y a encore des ratés que nous faisons remonter tous les jours, puisque tous les jours vous avez des gens qui appellent la mairie, donc tous les jours c'est remonté auprès du service de la collecte. Moi j'ai tous les week-ends, j'ai été depuis le 5 juin, les 3 week-ends qui ont suivi, j'ai été en contact samedi et dimanche avec les responsables parce qu'ils sont venus dans la commune, ils ont regardé ce qui n'allait pas, ils ont fait intervenir des prestataires en plus du prestataire choisi. Donc là aujourd'hui, ça a l'air de rentrer dans l'ordre parce que c'est vrai que la première semaine, le secrétariat était couvert de post-it jaunes de partout. Là, il n'y en a plus que 2 sur l'ordinateur du guichet unique ce soir. Donc on peut dire que ça rentre dans l'ordre. Alors après, il est toujours intéressant de faire remonter à la mairie ce qui ne va pas, hein. Donc il y a des impasses qui ne sont pas encore desservies. À un moment donné, les lieux-tels, on ne l'avait pas collecté. La maison des missions africaines. Enfin voilà, il y a eu pas mal de soucis. Donc aujourd'hui, tous les cas, moi je vois dans mon quartier... c'est vrai que les jours ont changé, mais voilà, ça y est, le rythme est pris et les impasses sont faites aussi dans tout le quartier du Pioche, Olivette y passe. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens maintenant mettent les cartons dans la poubelle jaune, alors qu'il y a un lieu pour aller mettre les cartons. Ce sont les bennes jaunes qui ont toujours existé. Aujourd'hui, les gens ou plient ou ne plient pas pour la plupart, et je le vois surtout sur le vieux village, puisque tous les jours je passe devant certaines poubelles et je regarde, les cartons sont mis comme ça dans la poubelle jaune, ce qui fait que très rapidement la poubelle jaune déborde, parce que si les cartons ne sont pas pliés, voilà. Donc je pense qu'il va falloir refaire une communication auprès des habitants pour qu'ils comprennent vraiment l'utilité de la poubelle jaune, de la poubelle grise et de ce qu'on appelle les PAV, donc les points d'apport volontaire, jaune et vert.
C'est plus que simplement une information. C'est que je pense, pour en avoir parlé avec certains, les gens étaient tellement excédés, ils ont dit maintenant on s'en fout, on trie plus, on fait n'importe quoi. Ouais, voilà, ils en avaient marre. Ouais. Donc ouais. Je pense qu'il faut refaire le lien avec eux. C'est plus que de la communication, c'est vraiment refaire le lien avec eux pour baisser cette tension que tu dis qui est en train de baisser. Mmh. Enfin voilà. Elle doit exister encore, puisque tu vois, il y a des gens qui ne font pas ce qu'il faudrait faire.
Et là, en partant tout à l'heure, j'avais un sac jaune posé devant la borne incendie, devant l'impasse du château, le sac jaune posé par terre. Bon, alors que ça fait depuis le 5 juin, hein, donc je ne sais pas comment ça se fait que la personne a déposé ça là. Je ne sais pas. Donc, ben, on va le faire enlever par Giorgio de la métropole qui tourne, et puis il le prendra. Quoi, mais... Voilà, on a rajouté dans le vieux village, par contre, il y a eu un véritable changement au niveau de la collecte, puisque tous les sacs qui étaient au crochet ont disparu, et donc les gens doivent porter leurs sacs jaunes et gris dans les poubelles grises et jaunes. Donc il y a eu des emplacements qui ont été validés avec la métropole, et nous avons même rajouté des poubelles, parce qu'on s'est très rapidement rendu compte que ce n'était pas suffisant. Donc il y a des endroits où on a rajouté des poubelles. Voilà, on verra.
Ça s'est plutôt bien passé.
Moi, je trouve que ça s'est mieux passé dans le vieux village avec les sachets, les sacs au crochet, ouais, que dans le reste de la commune, ouais, où ça a été...
Ouais, j'habite là, ça
a été terrible, hein, dans le reste de la commune. Mais il faut dire, bon, moi j'ai entendu des choses complètement folles. Hein. Les éboueurs qui passent dans une rue, qui prennent une villa, pas l'autre, une autre villa.
Chez nous aux Aiguillères, un coup ils faisaient
le côté droit,
descente, un coup ils faisaient la montée, et un troisième coup ils passaient pour l'impasse. Une fois, mais ils ont bien tout ramassé.
Sachant que dans les impasses, les gros camions ne peuvent pas rentrer dans les impasses parce qu'ils ne peuvent pas tourner. Donc, les gros camions font les rues qui sont droites, plus ou moins droites, et dans les impasses, ils envoient le petit camion.
Maintenant, ils le font.
Pardon ?
Ils le font.
Oui, ça y est, maintenant.
Comme c'est interdit au plus de 3,5 tonnes,
ils envoient le petit camion. Et là, j'ai vu le petit camion tourner hier matin, je crois.
Il y a des impasses où ils peuvent tourner, comme l'impasse des Agaces, il y a une place au fond. Eh bien, ils l'ont, pendant 3 semaines, ils ne l'ont pas fait. Donc il a fallu que je demande au guichet unique qu'il passe.
Parce qu'ils avaient des plans, j'ai demandé à voir leurs plans, ils avaient des plans sur lesquels toutes les rues n'étaient pas marquées.
Ouais.
C'est extraordinaire.
C'est une façon de faire des plans.
C'est une partie.
Après,
je pense qu'au-delà de nos propres agents, pour moi, en ce qui concerne la cantine et les écoles, avoir été en contact avec les agents de la métropole sur ces problématiques-là, on peut quand même aussi les féliciter parce qu'ils ont été très réactifs. J'ai eu affaire à une dame que j'ai appelée à 8h du matin, qui à 8h30 était sur place pour montrer à ses équipes. Donc, on a été quand même bien accompagnés.
Les référents de la commune ont été très, très réactifs. On avait portable et on les appelait et ils intervenaient.
Ils ont été...
La référente du matin, c'était Mme Margotin. Le soir, c'était M. Vianès et il passait pour vérifier que, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas, et aussi faisait remonter. Oui. Donc, après, c'est vrai que ça a été... mal préparé, enfin je pense que ça a été mal préparé.
Effectivement,
oui.
La problématique, c'est que si c'était que Montferrier, entre guillemets, mais c'était général,
oui.
Montpellier était impacté et tous les villages de la métropole autour de Montpellier ont été également impactés.
Ceux qui dépendent d'Urbaser. Hein.
Bien sûr. Donc ils se sont retrouvés avec une marée de gens qui ne comprenaient absolument pas. Parce que 3 semaines, on va dire plutôt 4 semaines avant que ça se réduise.
On avait demandé un report. On avait demandé un report à...
On avait demandé un report et il...
Ça n'a pas été accepté.
Mais non, ça n'a pas été accepté parce que le marché s'arrêtait le 5 juin. Donc le marché s'arrêtait le 5 juin. Si on faisait un report, on n'avait personne qui ramassait entre le 5 juin et le 5 septembre, ou le 15 septembre. Donc ils ont mis ça en place.
Pour franchement, effectivement, un mois, ça fait quand même beaucoup. Le 5 juillet, ça a commencé le 5 juin. Mais personnellement, j'ai ma poubelle jaune qui était cassée depuis le début de l'année. Hein, donc j'ai mis un mot sur le site de la métropole, comme il se doit. Puis j'en ai parlé, bien sûr, à la personne adéquate.
Au
guichet unique. C'était un monsieur à l'époque qui m'a dit qu'il faisait le nécessaire. Et puis en gros, chaque fois que je venais en commission d'urbanisme, je lui disais... La poubelle n'est toujours pas arrivée, etc. Puis ça a changé, c'est une dame qui est arrivée. Elle m'a dit non, maintenant il faut téléphoner. Donc elle m'a donné un numéro de téléphone. Donc j'ai appelé. Et puis j'ai eu quelqu'un au bout du fil qui a pris ce que je lui disais, changer la poubelle jaune, etc. Et puis il s'est passé 2 mois. Rien, toujours rien. Et puis j'ai rappelé la dame. Qu'est-ce qui arrive à votre poubelle ? J'ai dit, c'est le couvercle. Et donc, elle m'a dit, on viendra vous changer le couvercle seulement. Et puis, j'ai attendu 15 jours, 3 semaines. Puis, j'ai rappelé, on m'a dit, on va venir vous changer la poubelle, c'est sûr. Et là, quelques jours après, j'ai reçu un SMS. Il fallait appeler un monsieur. Je l'ai là sur le portable. Je l'ai rappelé, effectivement. Et il y a 3 jours... Lundi, 1h15, la poubelle est arrivée.
Oui.
Alors quand même, 6 mois, je pense qu'il y a un problème.
Ils avaient des problèmes.
Ils ont d'approvisionnement, oui.
Je ne défends pas le truc. Hein.
Non.
Mais bon, ils ont eu de gros problèmes d'approvisionnement de matériel.
De gros problèmes.
Ils ont de gros problèmes, de toute façon. À tous les niveaux.
À tous les niveaux.
Yeah.
Ensuite, l'embauche du chargé de communication. Donc, à partir du mois de septembre, début septembre, nous avons donc une dame qui viendra en tant que chargée de communication. Et peut-être, Amélie, dire trois mots sur cette personne, pas plus que ça.
On ne pas qu'elle arrive. Hein,
voilà, donc cette dame, ça fait 10 ans qu'elle s'occupe de la communication dans les collectivités territoriales. Elle vient de Vaillocès. Et c'est une jeune femme très dynamique, très ouverte, très spontanée, hein, Valérie, puisque vous l'avez reçue en entretien. Bon, on va voir, on va beaucoup s'appuyer sur elle, on va faire évoluer tout ça.
Telle qu'on l'a vu avec Amélie, elle correspond tout à fait à ce qu'on attend d'une chargée de
communication. De cette personne.
Ouais.
Voilà. Donc,
maintenant, on croise les doigts.
Maintenant, on croise les doigts, exactement.
Mais ce, oui, son cahier des charges. Oui, pardon. Je poursuis. Donc, c'est quelqu'un que vous avez embauché de Vaillocès.
Oui.
C'est ça, d'accord. Sur quelle grille de rémunération va-t-elle être embauchée?
Ah ben, on n'a pas le choix, monsieur.
Vous n'avez pas le choix.
On n'a pas le choix. Elle est titulaire, donc on la récupère ici en mairie. Et on est obligé de garder son grade et son salaire. Hein, donc,
d'accord. Alors,
bon, sans échelon.
Personnellement, on trouvait avec Céline que c'était peut-être pas le meilleur poste, parce qu'il manque un DGS, ou au moins un demi-poste de DGS. Vous disiez vous-même que vous étiez surbooké, c'est-à-dire ça. Il manque un policier. Donc, pensez que le policier, le DGS, était quand même plus important à recruter.
Je suis totalement d'accord avec vous. Nous sommes totalement d'accord avec vous. Le DGS, il est en bonne voie. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire grand-chose, mais normalement, il est en très bonne voie pour débuter dans notre commune au mois de septembre. Le policier municipal, malheureusement, le recrutement est très difficile, d'autant plus que quand nous avons cherché à recruter, nous avons été en concurrence avec la police municipale des transports de Montpellier Méditerranée Métropole, où ils prenaient 50 personnes, 48 agents exactement. Donc c'est vrai que beaucoup sont allés plutôt à la métropole que de venir dans les petites communes. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on repart sur un recrutement de policiers à la rentrée. Et la communication, je pense que c'est un poste qui est très important. Et dans notre commune, nous pêchons beaucoup au niveau communication. Donc il est très important d'avoir une chargée de communication et donc cette personne sera là en plus du reste et nous embaucherons les personnes nécessaires, le DGS, le policier municipal et peut-être d'autres personnes encore, on verra. Voilà.
Non, simplement je voulais savoir quel était le cahier des charges de cette personne. Et parce que je regrette
qu'en fait, il n'y ait pas eu de réunion de la commission de communication, d'ailleurs, il n'y en a pas depuis de très nombreux mois, où ce cahier des charges aurait pu élaborer, on aurait pu être au courant, parce qu'on l'apprend là par le conseil municipal que vous allez embaucher un chargé de com, mais on n'en a jamais entendu parler.
Alors après, donc, Michel, un chargé de com, il y a une fiche de poste classique, donc on va se baser sur une fiche de poste classique, et nous, après, vous pouvez répondre, Amélie et Valérie. Sur ce qu'on compte lui faire en priorité, nous, dans notre commune.
Mais on va travailler à la fiche de poste avec tous les élus, dans le cadre d'une commission. La fiche de poste sera travaillée tous ensemble. Mais d'abord, l'embauche a été très importante parce que ça n'a pas été facile de rencontrer quelqu'un de disponible, de compétent et qui corresponde à tout ce qu'on attend et qui soit déjà opérationnel.
Et qu'il soit surtout opérationnel dans les collectivités territoriales. Parce que c'est sûr que dans les personnes qui ont répondu à l'annonce, on avait des chargés de com divers et variés. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment quelqu'un qui connaisse parfaitement le fonctionnement des collectivités territoriales et ce qu'on attendait d'une chargée de communication dans les collectivités territoriales. Et c'est vrai que le profil de cette dame, 10 ans dans les collectivités territoriales, c'est très intéressant.
C'est parfait.
Alors, oui, je ne mets pas en cause le fait que c'était peut-être nécessaire, tout ça, simplement je mets en cause le fait qu'on apprend là, quoi. Et que je trouve ça dommage. Enfin, tu vois, c'est comme une fiche de poste. Bon, toi tu dis de toute façon ça correspond aux fiches de poste, mais quand on embauche quelqu'un, on donne la fiche de poste à la personne, elle sait ce qu'elle aura à faire.
Les grandes lignes,
c'est une fois qu'elle est embauchée, qu'on lui dit voilà ce que vous aurez à faire, en fait, il me semble.
Non, mais les grandes lignes, c'est déjà ce qu'elle fait à Vaillocès, on en a discuté, donc elle est vraiment. Tout ce qu'on attend d'elle, c'est ce qu'elle sait déjà faire. Et en plus, je trouve qu'il y a un avantage majeur, c'est qu'elle habite juste à côté. Donc c'est quelqu'un qui nous l'a clairement dit, elle est amoureuse de la région, elle est disponible,
Elle pourrait sur tous les événements.
Elle peut se rendre disponible même en soirée sur des événements, donc il y a vraiment un avantage majeur. On ne pouvait pas la laisser passer. Quoi.
Et puis il faut quand même remettre toute cette embauche dans un grand contexte. Montferrier était la seule commune de la métropole à ne pas avoir d'agent sur ce poste-là quand même.
Non, mais encore une fois, je ne conteste pas, c'est une embauche très importante.
Et la fiche de poste
sera
travaillée.
Je les comprends, ils auraient pu être les miens, etc. Je ne conteste pas l'utilité, je ne veux pas faire de polémique là-dessus. Il y a besoin d'une chargée de communication, ok, on en embauche une. Si on a les finances pour ça, je pense qu'on les a. Mais voilà, c'est tout. Je ne veux pas faire de polémique. Simplement, voilà, on la prend là et je trouve que c'est dommage.
Vous ferez un groupe de travail sur la fiche de poste peaufinée qu'on donnera en dehors, en commission.
Je voudrais ajouter aussi, comme l'a dit Michel tout à l'heure, on s'interroge quand même, Céline me l'a indiqué, pourquoi n'y a-t-il pas de réunion concernant la communication, la commission communication. Alors certes, dans le règlement intérieur, il n'y a pas d'obligation, relever, mais dans les autres commissions, urbanisme, il y a des réunions quand même assez fréquentes, culture, etc. Et là, Céline me dit que depuis bien longtemps, elle n'a pas eu l'occasion d'avoir une réunion communication. Pourquoi ?
C'est un fait, mais la communication sans agent dédié à ça, pour l'instant, suit le fil du quotidien et on fait ce qu'on peut avec les moyens que nous avons de manière très artisanale. Et effectivement, quand tu auras un chargé de communication, il y aura évidemment besoin d'avoir des stratégies de communication qu'on pourra mettre en place au niveau de cette fameuse commission. Et enfin, nous pourrons travailler de manière normale sur ce sujet-là.
Alors nous allons passer au point, les informations sont finies, donc je vous ai parlé de tous les points. Nous allons passer au point A, décision du maire, donc deux décisions importantes depuis le dernier conseil municipal, La première, c'est la maîtrise d'œuvre pour l'étude de la faisabilité et la réhabilitation du château. Donc cette maîtrise d'œuvre était nécessaire pour mettre en place la réhabilitation du château. Donc il y a deux architectes, Madame Rinaudot et Monsieur De Broas, pour ne pas les nommer, qui ont fait cette étude de faisabilité. Et cette maîtrise d'œuvre qu'on leur a donnée a représenté une somme de 11 300 euros. Ils ont travaillé pendant à peu près 4 mois. Ça a été un gros travail, beaucoup de photos, de plans, vraiment un très gros travail. Et un travail fait par des architectes en relation avec le patrimoine, qui ont tous les deux travaillé au niveau du patrimoine, au niveau des bâtiments de France, etc. Donc c'est un travail qui a été regardé d'un œil très appuyé. Et voilà, donc du coup aujourd'hui nous avons, et ça sera un point de délibération, un résultat sur la faisabilité de la réhabilitation du château de Montferrier. Voilà.
Je vais faire la même remarque que précédemment. On trouve
effectivement un peu dommage qu'il n'y ait pas eu une réunion de la commission travaux, voire adjointe à la commission culture, pour avoir au moins le rendu du rapport.
C'est pas la commission travaux, c'est la commission patrimoine. Et quand la commission patrimoine s'est créée, j'ai pas grand monde qui m'a suivi. Donc,
non, il n'y a pas de commission patrimoine au conseil. Non,
il n'y a pas de
Il y a un groupe de travail.
Il y a un groupe patrimoine.
Il y a des commissions.
Ne mélangeons pas les choses. Mais c'est le groupe patrimoine qui travaille.
Non, mais que le groupe patrimoine travaille, les groupes ils peuvent travailler, sont des groupes de travail. Il y a toujours un compte-rendu dans l'une des commissions dans lesquelles ils émanent. Et en l'occurrence, je pense que ou la commission culture ou la commission travaux auraient dû être destinataires du résultat de ce rapport. Même si le groupe patrimoine travaille, c'est très bien, c'est un groupe de travail. Et je pense que c'est la même chose pour les autres groupes de travail qui existent. Ne mélangeons pas le fonctionnement de groupes de travail qui sont informels avec le travail des commissions, qui sont des choses formelles et présentes dans le cadre du conseil municipal, avec un certain nombre d'objectifs. Donc ce que l'on sollicite de la même façon que précédemment, ce qu'on sollicite, c'est qu'il y ait au moins une commission conjointe, à mon avis, de la commission culture et de la commission travaux pour discuter de ce point-là, avant que les choses n'apparaissent en conseil municipal.
Alors, je vais te donner une réponse très simple. La faisabilité de la réhabilitation du château est arrivée sur mon mail lundi à 10h du matin. D'ailleurs, je pense... Non, pas lundi, pardon. Jeudi à 10h du matin, avant d'envoyer le conseil, parce que sinon, j'aurais pas pu mettre ça au conseil, parce que je ne pouvais pas vous donner un estimatif du coût. Et donc, c'est arrivé donc jeudi, l'estimatif du coût, avec le dossier associé. Donc jeudi, on est mercredi. Voilà. Je pense que là, moi, je l'ai découvert et j'ai commencé un petit peu à le travailler. Mais c'est vraiment quelque chose, parce que ça a été très long, et c'est pas le résultat de cette faisabilité ne date pas d'il y a un mois ou d'il y a deux mois. Il vient juste d'arriver, parce que je leur ai mis la pression en leur disant, bon, mais maintenant, il faudrait avancer, parce que si on doit demander des subventions, on ne va pas attendre 10 ans pour demander des subventions. Et donc, elle m'a rendu le rapport jeudi matin. Voilà. Donc,
oui, okay.
Il y aura un compte-rendu.
On note qu'il y aura donc quelque chose qui se fera, un retour qui se fera aux commissions concernées dès que possible. Ce qui me semblerait normal. Hein.
Tout à fait. Je pense que c'est en commission culture que ça se fera, puisque le patrimoine est en commission culture. Je pense que c'est plus logique.
J'avoue que pour ce qui est du patrimoine,
c'est vrai que moi je fais partie de la commission, enfin du groupe de travail. Mais je me suis mobilisé sur tout ce qui concerne le patrimoine, mais j'ai complètement fait l'impasse du reste. Je ne me souviens pas d'avoir été absolument sollicité pour ça. Donc c'est peut-être de ma faute, mais je ne m'en souviens pas. Voilà. Bon, donc, mais à coup de pas si c'est, de ma responsabilité. Hein,
voilà. C'est pas grave, pour le reste, quand il a fallu, tu étais là, donc c'est pas grave.
Merci.
Non, clairement.
Deuxième décision, c'est un avenant au lot numéro 5 électricité pour la phase 2 de l'école, pour la société ITEM de 26 200 euros. Bon, ça, c'est des choses supplémentaires qui ont été rajoutées au niveau de la phase 2, puisque nous avons ajouté le bureau de la directrice, la salle des maîtres. Il y a des choses qu'on a changées alors qu'on n'avait pas prévu de changer, etc. Parce qu'on a profité que de faire des travaux aux écoles et de pouvoir réhabiliter des pièces qui n'étaient pas prévues au départ. Uniquement, au départ, on est parti, je vous le rappelle, sur une rénovation énergétique de l'école. Donc, essentiellement, les classes et les couloirs. Et c'est vrai qu'il est un peu dommage de faire une rénovation énergétique et de ne pas penser en même temps de refaire certaines pièces, les relooker un peu, parce que c'est vrai qu'elles datent de 1975. Et, voilà, donc, et l'électricité est aussi vieillissante, d'où l'investissement un peu plus important au niveau électrique, au niveau de l'école. Donc, d'où l'avenant numéro 2 que nous avons signé avec la société ITEM. Voilà. Ensuite, nous allons passer donc aux délibérations. Alors, la première délibération, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la demande de subvention pour l'étude et la faisabilité de la réhabilitation du château. Donc, pour réaliser la faisabilité, nous avons demandé une étude. Cette étude, je vous l'ai expliqué, ce sont les deux architectes qui l'ont menée. Aujourd'hui, nous avons un retour donc depuis moins d'une semaine sur la faisabilité des travaux. Et la nouvelle est quand même intéressante parce que, comme je vous l'ai mis, l'estimation de ces travaux s'élève seulement à 685 000 euros. Je m'attendais, moi, à ce que ce soit 1 million, 2 millions, 3 millions. Enfin, je n'avais aucune idée, mais je pensais que ça allait être assez élevé. 685 000 euros, je pense que c'est... Non, c'est le coût de la réhabilitation, 685 000 euros, je trouve que ce n'est pas excessif. Je trouve que ce n'est pas excessif. Alors, dans ces 685 000 euros, il y a plusieurs phases. Il y a une phase extérieure et une phase intérieure. Dans la phase extérieure, il y a tout ce qui concerne l'humidité. Donc, humidité, ben vous le voyez, hein, il suffit de rentrer au secrétariat hein, pour le voir. Donc, première chose, traitement de l'humidité au niveau de tout ce qui est rez-de-chaussée. Et ça se fera par le biais d'une méthode qui s'appelle Murtronic, donc électrolyse, tout simplement. Et cette méthode doit être mise en place pendant au moins un an, voire peut-être 18 mois, pour vraiment arriver à assécher les murs. Tant que les murs ne seront pas asséchés, nous ne pourrons pas, évidemment, ni traiter les façades, ni traiter le secrétariat où on a du salpêtre sur les murs, etc. Donc, les façades et le secrétariat et mon bureau, d'ailleurs, mon bureau, ça y est, tout le mur recommence à être imbibé d'eau, hein, c'est extraordinaire. Donc, tant que ça ne sera pas fait, on ne pourra pas faire les façades. En extérieur, on a aussi la reprise de l'escalier qui descend sur les terrasses. Ça peut se faire. Ça n'a rien à voir avec l'humidité. Donc ça peut se faire. La reprise des balustres, la reprise des marches. Il y a l'escalier qui amène à la poterne. Pareil, qui est très dangereux, qu'il faudra revoir.
Le jointage des terrasses qui fait infiltration.
Il y a les dalles du balcon. Oui. Les dalles du balcon qui sont à reprendre absolument, et donc le jointoiement, etc. La terrasse en elle-même, alors bon, j'ai lu dans le rapport qu'il fallait enlever la souche. Je ne suis pas convaincue.
Non.
Je ne suis pas convaincue du tout. Non pas parce que je trouve qu'il faut laisser cette souche en plein au milieu de la terrasse. Bon, je trouve que ce n'est pas très joli. Mais la problématique, c'est que j'ai interrogé des responsables d'espaces verts et qui m'ont énormément déconseillé d'enlever cette souche. Parce que les racines du mycocoulier qui avait et qui est là depuis des années doivent tenir des pierres, etc., des murets. Enfin. Donc je pense qu'il n'est pas judicieux de l'enlever. Dans le rapport qu'elle a envoyé, que j'ai lu, elle parle de retirer, il parle de retirer la souche. Après, en extérieur, on a ça. On a la mise en place d'un monte-charge, ascenseur monte-charge, qu'on mettrait au bout de la place qui est à côté du bureau, de mon bureau, au bout de la place côté de chez Alain Jam, et qui permettrait d'accéder à la première terrasse et qui permettrait ainsi l'arrivée sur ces terrasses de gens à mobilité réduite, hein, de personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est compris dedans. Qu'est-ce qu'on a encore en extérieur? L'éclairage du château. J'ai vu aussi, j'ai été interpellée, mais ça, je vais en rediscuter avec eux. 31 menuiseries à changer, je pense qu'ils se trompent complètement. Donc bon, ça, il va falloir le regarder de très très près, pour qu'il y ait une erreur quelque part. D'autant plus que tout le rez-de-chaussée, les menuiseries sont neuves.
Donc, ils avaient parlé à la base de mettre des doubles vitrages qui avaient.
Oui, mais 31 menuiseries, c'est pas possible. On n'a pas 31 fenêtres, hein, donc bon. C'est pas grave, donc ça on regardera. Il y a donc à l'intérieur après, on a le petit bureau attenant à la salle au salon de musique.
Bibliothèque,
bureau. Il sera entièrement refait. Et là, la menuiserie, il faut absolument la changer, parce qu'elle n'a jamais été refaite. Donc ça c'est sûr. À l'intérieur, on a aussi la reprise de quelques carreaux de ciment dans la salle de musique, pareil aussi, hein, qui ont été bétonnés, qui ont été cassés de longue date et qui ont été bétonnés, donc qui seront refaits. Il y a au niveau lumière, bon, tout est en LED aujourd'hui, donc bon, il n'y aura pas trop de changements à avoir. Il y aura voilà, des aménagements intérieurs à revoir. Le réaménagement, bien entendu, de tout le secrétariat, hein, puisqu'il va falloir enlever. Une protection du mur, je pense, pour cacher le salpêtre, etc., qui a été mise. Il faudra tout enlever et tout refaire correctement. Le SAS, donc le SAS. Ça aussi, on va réfléchir sur le SAS. Qu'est-ce qu'on a encore en intérieur? Les caves, on a déjà remis un système d'éclairage. On va voir comment on va l'améliorer. Bien sûr, toutes les fenêtres des caves sont à changer. Hein, toutes, puisqu'il y en a même, ce sont des feuilles de plastique. Hein. Oui. Donc, toutes les menuiseries sont à changer. Les portes aussi, en bas. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais ça ne fait pas énormément d'argent.
Et on pourrait pas mettre une petite mesure pour descendre les escaliers quand on est...
Les escaliers pour descendre sur la terrasse.
Tu as la rambarde, j'ai peur que.
Il n'y en a pas de rambarde.
À quel endroit?
Quand tu descends de là, des caves.
À des caves.
Non, oui, les escaliers.
À l'intérieur, oui, c'est vrai. Alors, il y a l'escalier aussi qui va des caves au rez-de-chaussée et qui va au premier, qui sera refait aussi. Et on pourrait envisager
de mettre. Parce que vraiment, quand tu es en haut, tu as l'impression que tu vas te jeter dans le vide.
On pourrait l'envisager, ça, voilà. Je pense.
Surtout si on prévoit de monter.
Après, on a réfléchi aussi à l'éclairage du château. ponctuel. On a aussi, vous avez aussi des fenêtres qui sont obstruées, donc sur lesquelles on ferait peut-être du trompe-l'œil, on verra.
Oui, une ou deux remarques. D'abord, bon, vous venez de préciser en quoi consistait cette réhabilitation. Alors, je souscris tout à fait au monte-charge, parce que c'est vrai que la terrasse du château est accessible facilement pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes âgées de façon générale, plus générale. Donc ça, c'est une très bonne chose, notamment en vue de spectacles culturels qui sont malheureusement, on peut le regretter, trop rares hein, sur cet espace qui, à notre avis, est le plus beau de mon territoire. Faudrait peut-être faire d'autres spectacles.
On attendra d'avoir le monte-charge.
Oui.
Quand tout sera sécurisé, on refera des spectacles.
Alors, dernière question que je vais vous poser, puisque vous avez estimé les travaux, enfin, on a estimé à 685 000 euros, quel est le coût estimé pour la commune?
Alors, donc, j'allais vous parler des subventions donc, que l'on pourrait avoir sur cette réhabilitation. Donc, on va avoir des subventions de la métropole, du département. On va avoir. Nous allons demander des subventions à la métropole, au département, à la région, à l'État, à la Fondation du patrimoine et à la Fondation Berne. Sachant que la Fondation Berne a déjà été contactée et qu'elle nous suivra. Donc je pense qu'on aura. C'est pour ça que quand je vois la somme, je me dis que bon, de toute façon, on ne pourra pas avoir plus de 80%. C'est normal, on aura donc, M. Bord, 20% à notre charge, obligatoirement.
Au moins.
Voilà, à minima, ça sera 20% des 685 000, ça c'est sûr. Après, si on arrive à avoir les 80%, pourquoi pas. Et après, peut-être rajouter d'autres choses, je ne sais pas, on verra. Hein, parce que le toit n'a pas été regardé. Peut-être qu'on pourrait regarder le toit aussi. Hein. On a, personne n'a pensé au toit, mais peut-être qu'il serait judicieux d'aller faire un tour. Parce que c'est un toit plat. Hein. C'est un toit plat. Moi, j'y suis allée, hein, je suis montée sur le toit. C'est un toit plat. Ce n'est que de l'étanchéité voilà, simple. Donc j'aimerais peut-être bien qu'on regarde le toit et qu'on voit si ben, on ne peut pas le mettre aussi dans la réhabilitation. Hein. Pourquoi pas hein.
Il y a l'étanchéité sans isolation.
Pardon ?
Étanchéité sans isolation, alors, sur le toit plat.
Oui. Ou faire l'isolation, hein. Bah oui, pourquoi refaire l'isolation? Et ça éviterait à ce que les deux salles en haut soient affreusement chaudes. Parce que dans leur proposition de réhabilitation, ils ont inclus aussi la pièce, je ne sais pas si vous la connaissez, quand on est dans la salle de réunion tout en haut, il y a une pièce à droite qui n'est pas du tout réhabilitée, hein, qui est dangereuse, hein, on ne peut pas y aller. Et donc ils l'ont envisagé.
Parce que les problèmes d'humidité, c'est qu'il y a un problème de ventilation. Donc même si on met un procédé, je suis quand même...
Non, alors ils ont étudié, et il n'y a pas qu'un problème de ventilation, on a un problème de pierre, qui est une pierre qui est très poreuse et qui aspire à n'en plus pouvoir l'humidité. Donc dès qu'il pleut, par exemple quand on est dans les caves, quand il pleut, ça pénètre au niveau de la place qui est à côté de mon bureau, ça descend le long de la terre et ça sort en bas dans les caves. Et ça, c'est démontré tout simplement.
Ouais, après, il faut mettre un drap.
Alors voilà, après, il y a peut-être encore d'autres choses à faire.
Ils ont prévu de... C'est habitué.
Donc voilà, après, il faut aller peut-être un petit peu plus loin dans les travaux. Mais bon, moi, je trouve que 685 000, 2 fois 6, 12, 2 fois 8, 7, 2 fois 6, 12, ça fait 130 000 euros à la charge de la commune. Si vraiment on arrive à avoir les 80%, il faut y aller. Hein. Enfin, il n'y a même pas à se poser de questions. Hein. Il y a
les...
Pardon ?
Ce n'est qu'une estimation.
Bien sûr, mais bon, imaginons même 800 000.
Oui, voilà.
2 fois 8, 16, ça fait 160 000 euros.
Surtout sur des rénovations de bâtiments anciens, assez rare qu'il n'y ait pas de...
Des plus-values, bien sûr.
Mais bon, effectivement, ce ne sera pas forcément doublement non plus.
Voilà. Donc je pense que...
Déjà, si on rajoute la toiture...
Oui, oui.
À la toiture, ça peut être... Là, ça peut être, autre chose.
Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est un bâtiment qu'il faut réhabiliter et ça serait dommage de faire l'intérieur et puis demain d'avoir...
On en est convaincu.
Mais comme le dit Michel, dans l'ancien, souvent, on a des surprises.
Bien sûr.
Mais bon. C'est la partie du jeu.
On part de bas, hein, là. On est à 685 000, hein, donc on a encore de la marge. Hein. Et si on arrive à 2 millions, on mettra 10 ans pour le faire. C'est pas grave non plus. Mais je pense que voilà, il faut mettre en place, mettre en route la réhabilitation du château parce qu'il s'abîme et c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Voilà. Donc je vous demande l'autorisation d'aller demander toutes les subventions possibles pour pouvoir réhabiliter ce petit château de Montferrier. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous dire quelque chose. J'ai reçu dans mon bureau une famille du Vidal qui est arrivée, une maman et sa fille, et la fille est férue d'histoire et férue de généalogie. Et elle est arrivée dans mon bureau en disant voilà, nous sommes la famille du Vidal par les femmes, parce qu'il y a j'ai appris plein de choses ce jour-là, donc par les femmes. Et alors elles m'ont montré un livre dans lequel était colligé plein d'histoires sur le château de Montferrier, ce qui a pu s'y passer, ce qu'elles, alors pas elles, mais leur arrière-arrière-grand-mère, etc. Alors j'ai été étonnée, je leur ai demandé si elles étaient de la même famille que les Duvidal de Tours, parce que je crois que Madame Lazutte, Marie-André, est allée à Tours les rencontrer. Et elle m'a répondu que non. Voilà, à côté du château de Villandré, tout à fait. Elle m'a répondu que non, il n'avait rien à voir. Alors peut-être que...
Elle tenait la famille là, qui était une ferme auberge, à côté du château de Villandré.
Alors peut-être que cette famille est du côté des hommes et qu'eux, ils sont du côté des femmes. Donc enfin bon, bref. Donc c'était amusant et je me suis permis de leur faire visiter le château, de les emmener à droite, à gauche. Alors ils étaient absolument ravis. Et la petite jeune fille de 21 ans, je crois, était en extase devant ce château. Et voilà, donc...
Juste comme ça, on ne peut pas avoir copie des textes.
Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoutez, si vous pouviez nous envoyer au moins les textes les plus intéressants, parce qu'après, il y a des histoires de famille, etc. Oui. Mais envoyez-nous les petites histoires qui ont pu se dérouler dans le château, ça pourrait être intéressant. Donc, elle a dit qu'elle le ferait. Alors,
bon. D'accord.
Voilà. Elle a dit qu'elle le ferait, et c'est vrai que c'était intéressant. Voilà. Donc, nous allons passer au vote pour cette demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, après, la deuxième délibération concerne les subventions exceptionnelles aux associations. Donc, dans les deux associations, nous ont fait une demande de subvention exceptionnelle. La première, c'est la LIR. Qui a demandé, donc l'année dernière avait demandé une subvention exceptionnelle de 400 euros qui concernait la location du piano pour le concert. Cette année, nous a demandé 1100 euros. Je vous rappelle que ça correspond à 80% de la subvention demandée. Nous ne donnons que 80% de la subvention demandée, ce qui correspond donc à 1100 euros. Pourquoi une augmentation par rapport à l'année dernière? C'est que cette année, il a fallu déplacer les deux pianos qui étaient à Lucien Miquel pour venir dans la salle de musique, et il a fallu tous les deux les réaccorder. Donc automatiquement, plus la location du piano supplémentaire, ça faisait donc 1338 euros de mémoire, et donc ils nous ont demandé une subvention exceptionnelle de 1100 euros. Et ensuite, le tennis nous a pas demandé cette année de subvention de fonctionnement, et donc ne fait qu'une demande de subvention exceptionnelle de 600 euros. Bravo au tennis quand même, parce que voilà, le fonctionnement est bon assuré et assumé tout seul cette année. Donc voilà, la subvention exceptionnelle de 600 euros permettra d'assurer les différents tournois qu'ils vont faire. Voilà. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Troisième délibération, ça concerne encore des conventions avec la métropole sur des groupements de commandes, parce que je trouve qu'il est toujours intéressant de rentrer dans des groupements de commandes quand on est une commune toute seule ou quand on fait partie d'un groupement de communes, 10, 15, 20 communes, on arrive à avoir des prix. Donc les deux délibérations concernent la première, les vêtements de la police municipale ainsi que le matériel, et la deuxième convention concerne tout ce qui est services techniques, agents, avec des chaussures de sécurité, des vêtements d'hiver, d'été, etc., pour le jardinage, pour les gants, voilà. Donc je ne vous relis pas toute la convention. Cette convention, c'est exactement la même que l'on signe depuis 2 ans avec la métropole. Donc je vous demande juste l'autorisation de signer cette convention.
Juste une remarque, oui. C'est Céline qui m'indique. pour la deuxième convention, pour l'achat de vêtements,
oui.
Soline me dit, c'était déjà au budget, pourquoi cette somme supplémentaire?
Ce groupement de commandes sur les vêtements, les chaussures de sécurité, ce n'est pas au budget du tout. C'est exactement la même somme, c'est-à-dire 5 000 euros, mais on avait mis 5 000 euros sur des groupements de commandes précédents. C'était des achats de matériel, échelle, outillage, etc. Et on avait mis 5 000 euros. Et pour la police municipale, comme pour l'instant nous n'avons qu'un seul policier, on a mis 1 500 euros. Voilà. Après, ça, c'est fluctuant. C'est-à-dire que si ça leur sert uniquement à faire la convention d'un groupement de commandes. Après, si nous leur demandons pour 3 000 euros d'achat de vêtements, il n'y a aucun problème. Hein, ça marchera. Voilà. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. À l'unanimité. Pour les deux conventions?
Oui.
Ensuite, la délibération numéro 5 concerne la bibliothèque. Alors, au niveau de la bibliothèque, il y a un livre, je suppose que tout le monde le connaît, qui s'appelle « Montferrier pittoresque », qui a été travaillé pendant une dizaine d'années par 3-4 personnes, montferriéraines, qui l'ont écrit, qui a eu beaucoup de succès, qui a été édité une première fois, réédité, et après en avoir discuté avec elle, ce livre a été vendu au départ 15 euros, c'est-à-dire le prix que ça a pris coûtant. On s'est dit qu'aujourd'hui, on pouvait, vu l'augmentation des coûts partout, hein, l'impression a augmenté, le papier a augmenté, enfin tout a augmenté, on a pensé augmenter ce prix et le passer de 15 à 25 euros.
Parce qu'il y a eu une réédition qui nous a coûté plus cher.
Ben oui,
donc il est par vendu à 15 euros, donc il est vendu à perte.
Donc aujourd'hui, nous avons fait une réédition de 200 livres et il nous en reste à peu près une centaine encore à la bibliothèque. On se dit que ces 100 livres vont partir et que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans peut-être, il faudra encore rééditer une centaine de livres. Donc on se dit qu'aujourd'hui, on va être non plus à prix coûtant mais à perte, d'où la nécessité d'augmenter le prix du livre. Ça nous paraît tout à fait normal. 25 euros, le livre est grand, il est très beau.
C'est pas cher
25 euros. Quand on voit les prix à la FNAC...
Le travail, surtout.
Le travail. Donc 25 euros, c'est pas très cher. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu le mettre en délibération. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci pour les bibliothécaires. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais dire aussi, rajouter quelque chose sur les bibliothèques. Monsieur Bohr a fait un travail. Il est allé au château de Castries et au niveau des archives, vous avez retrouvé. Voilà.
C'était lors d'une visite du château de Castries, auquel m'avait invité un des responsables, que j'ai découvert. Salle des archives, un livre qui traînait, il n'était pas rangé encore, il s'appelait « Combat de Montferrier ». Donc j'ai demandé aux collègues si on pouvait l'avoir, donc il me l'a donné au bout d'un certain temps. Et puis je l'ai scanné, j'ai fait un scan de ce livre que j'ai donné à madame la bibliothécaire, qui en a fait 3 exemplaires, pour, je crois, la mairie, pour la bibliothèque et pour moi. Enfin, je lui ai demandé si je pouvais avoir un exemplaire également. Voilà, donc merci pour cet exemplaire que j'ai
donc dit. Vous avez un exemplaire.
Ce livre retrace le combat de Montferrier, tel qu'il s'est déroulé.
Le 24 août,
voilà, ah oui. Exactement. Voilà. Donc vous avez tous les détails qui sont donnés par les militaires et ceux qui sont intervenus directement.
Vous avez 3 rapports de police. Voilà. Vous avez 3 rapports de police sur le 24 août.
Alors chacun donne sa vie. C'était demandé, bien sûr, par le colonel qui a dirigé l'opération sur Montpellier, puisque le combat de Montferrier consistait surtout à défendre, bien sûr, Montpellier, parce que les troupes allemandes, nazies, sont passées plutôt vers le nord et par le côté de Montferrier, alors qu'au départ, elles avaient traversé la ville de Montpellier avec, bien sûr, pas mal de destructions. Voilà. Et après, elles sont passées du côté de Montferrier. On a enjambé le pont du Lez, là, qui est actuellement, pris la route de Clapiers, et donc les militaires s'étaient regroupés sur Montferrier avec des points bouchés. débouchés, notamment vers le canal, notamment vers le cimetière, etc. Et puis ils surplombaient depuis les hauteurs les colonnes militaires et ils les ont attaqués par la suite. Ils ont attaqué l'arrière-garde.
Donc, si vous voulez voir ce livre, il y a un exemplaire à la mairie. Hein, donc, voilà, vous pouvez l'emprunter, le lire et puis
la bibliothèque a un scan du livre.
Alors, je peux également. La bibliothèque a un scan, puisque je l'ai donné à la bibliothèque.
C'est intéressant de l'avoir.
Et puis, moi, je peux vous donner aussi le scan, c'est le même.
Oui, moi, je veux bien.
Donc, si un jour vous voulez, on vient en conseil municipal avec votre clé, mais il ne faut pas votre envie. Moi, il est sur une clé USB. Vous pouvez le copier,
surtout qu'il y a des choses en cours suite à notre rencontre sur les commémorations où j'ai rencontré et justement la question qui se posait c'était de pouvoir intéresser les enfants en leur laissant quelque chose, un témoignage. Donc on réfléchissait à ça. Alors pourquoi pas envisager quelque chose à ce niveau là en sachant que pour les enfants on ne peut pas non plus leur laisser qu'un témoignage, je dirais, de quelque chose qui a trait à la guerre. Il va falloir donner quelque chose d'un petit peu plus léger. Voilà. Enfin, on y réfléchira, je pense. Mais ça me fait penser à ça.
Alors, il est possible aussi, le collègue en a parlé, qu'on ait d'autres ouvrages concernant Montferrier, d'un point de vue historique. Donc, j'attends encore, il doit m'en donner un prochainement. Encore. Il y a une grosse partie archivée, disons, et Château de Castries, c'est vraiment magnifique.
Merci. On va passer donc à la délibération suivante. Modification du tarif du réveillon de la Saint-Sylvestre, des tarifs du réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc, on voudrait augmenter, passer de 85 à 90 euros pour les Montferriérains et passer de 100 à 110 pour les extérieurs. Parce qu'encore une fois, tout augmente. Et les traiteurs que nous utilisons, avec lesquels nous travaillons pour le réveillon, comme à chaque fois, ce sont des bons traiteurs, les prix explosent. Hein, donc, on a jugé que voilà, on pouvait peut-être augmenter les tarifs du réveillon.
Je voulais faire une remarque.
Simplement, deux remarques. La première, c'est est-ce que, je sais pas, c'était une discussion peut-être avant, un tarif spécifique ne pourrait-il pas être proposé aux familles, aux personnes dans la précarité, qui ne paient pas d'impôts, par exemple, je ne sais pas, une suggestion.